Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine, Escale va à la rencontre de l'homme qui répare les femmes. Nous découvrons l'œuvre et le parcours du docteur congolais Denis Mukwege, ce chirurgien gynécologue obstétricien qui, depuis près de deux décennies, se voue à la réparation et réhabilitation des victimes de viol à l'est de la RDC. Une projection du documentaire « L'homme qui répare les femmes » de Thierry Michel et Colette Brackman a récemment eu lieu au siège de l'ONU, l'occasion de tendre notre micro au docteur engagé.
Notre approche à l'hôpital de Panzi, c'est une prise en charge holistique, effectivement, qui veut dire tout simplement que lorsque les femmes arrivent à l'hôpital, elles viennent avec des plaintes physiques, donc qui peuvent aller à des blessures de tout le corps, mais aussi surtout les blessures génitales. Et ce que nous avions constaté, c'est que, en fait, même si la plainte principale des femmes, c'est ces blessures, elles ont une atteinte psychologique qui est assez importante et on ne peut pas soigner physiquement sans pouvoir soigner psychologiquement, sinon c'est très très difficile de pouvoir y arriver. Et donc nous avons une équipe de psychologues, des assistantes sociales qui travaillent avec nous pour essayer d'aider les femmes sur le plan psychologique avant même les interventions chirurgicales. Mais avec ça, nous avions constaté qu'une fois guéries physiquement, où elles vont mieux psychologiquement, parce que la guérison, c'est tout à fait une autre chose. Souvent, la question qui se pose, c'est sur le plan socio-économique. Comment les réintégrer dans leur société? Comment, sur le plan économique, elles peuvent être autonomes? Et donc, nous travaillons avec des organisations de base qui sont des organisations qui nous envoient des victimes et nous les renvoyons ces victimes pour qu'ils puissent les aider à réintégrer leur communauté en leur donnant un appui économique. Et en fait, ce que nous avions observé, c'est que lorsque physiquement on se porte bien, psychologiquement on est suffisamment fort et sur le plan économique on est autonome, c'est à ce moment-là que les femmes demandent la justice. Donc nous avons une clinique juridique qui aide les femmes à recouvrer leurs droits et qui les accompagne devant les cours et tribunaux.
Alors combien de femmes et de filles ont pu bénéficier de vos soins au cours des 15-20 dernières années?
C'est un chiffre qui est toujours évolutif. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 40 000 femmes que nous avons prises en charge au niveau de l'hôpital, que ce soit la prise en charge médicale ou chirurgicale ou psychologique ou le trois ensemble. Elles sont au-delà de 40 000.
Votre approche a-t-elle fait ses preuves et a-t-elle évolué au cours des années?
Absolument, parce que lorsque nous avions commencé, on s'est limité presque à la prise en charge seulement médicale, mais on s'est rendu rapidement compte qu'il y a des femmes qui, après avoir soigné leurs blessures physiques, elles refusaient de manger, elles refusaient de boire, elles refusaient de vivre et mouraient également par suicide, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, nous avons assez rapidement insérer la prise en charge psychologique dans notre prise en charge. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui a aussi évolué par rapport à ces quatre piliers que je viens de citer, c'est le plaidoyer. Amener la communauté à prendre ses responsabilités, amener les individus de comprendre que rien ne peut changer si moi-même je ne change pas, si moi-même je ne considère pas que c'est mon problème. Donc nous avons un plaidoyer local, national, international. Et ça, nous considérons que c'est un paquet pour lutter contre la violence sexuelle.
Justement, à l'époque où vous avez démarré votre travail, votre vocation, il était très difficile d'avouer qu'on avait été victime d'une telle violence. Est-ce que cette attitude a changé aujourd'hui?
Il y a une très grande évolution. Par exemple, nous faisons la campagne de briser le silence. Briser le silence, c'est une façon de délibérer toutes les charges que les femmes ont. Et nous avons l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. C'est vrai que ce que nous traitons, c'est le sommet de l'iceberg, puisque beaucoup de femmes ont peur de dire qu'elles ont été violées, de peur qu'elles ne soient répudiées par leur mari. Mais nous avons de plus en plus de femmes qui, non seulement elles disent, elles prennent position, et après, vraiment, ce sont des activistes pour le droit des femmes. Et ça, je pense que c'est une évolution très positive.
On va se tourner un peu plus vers votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous consacrer aux femmes qui ont subi des violences sexuelles? Est-ce qu'il y a eu un moment de déclic?
En fait, lorsque j'avais créé l'hôpital de Panzi, je l'avais créé après que l'hôpital que je gérais, l'hôpital de Lemera, soit complètement détruit et mes malades ont été assassinés à l'hôpital. C'était très difficile pour moi de retourner dans cet hôpital et donc j'avais commencé un hôpital dans une tente à Bukavu. Mais lorsque nous avons reçu la première personne que nous avions soignée, c'était une femme qui, après avoir été violée, on a tiré sur sa partie génitale, elle avait des multifractures, etc. À ce moment-là, je considérais que c'est un fait isolé. Mais après le temps, je me suis rendu compte que c'était un phénomène qui s'est répété. C'était presque la même histoire. J'ai été violé, après ils m'ont introduit une baïonnette, j'ai été violé, après ils ont brûlé du plastique, du caoutchouc chaud sur mon appareil génital. Et c'est après presque 6 mois que j'ai commencé à me dire, je n'avais jamais vu ça. Et si ça se répète, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et je crois que là, j'ai commencé à parler avec Human Rights Watch et ils ont écrit le premier article d'ailleurs qui était « La guerre dans la guerre sur le corps des femmes ». Et ça, c'est déjà 2000. Et aujourd'hui, nous sommes en 2015. Malheureusement, ça continue. Et donc, on ne pouvait pas démissionner d'une situation qui nous a trouvés là où nous étions.
Justement, vous entendez, vous êtes témoin, vous réparez des douleurs, des cas très difficiles. Comment trouvez-vous la force d'aller de l'avant ?
Je crois que quand j'ai été très bas, quand j'avais le sentiment que qu'est-ce que j'ai fait ici, ça n'arrête pas. Chaque fois, j'ai trouvé des femmes que j'avais soignées, qui étaient dans de très très mauvaises conditions, ou qui sont dans des conditions où on a réparé, mais on a échoué, où on a réparé, mais la guérison n'est pas ad integrum. Que ces femmes-là, ce qu'elles me disent, ce qu'elles font, je me dis, je ne suis pas quand même plus bas que ce qu'elles ont subi. Et je crois que vraiment le moteur de la force de toute l'équipe avec laquelle je travaille, qui est une équipe formidable, c'est la force qui est dans les femmes qu'elles nous transmettent.
Par rapport à votre parcours, vous avez suivi votre père, pasteur dans la région. Vous avez après décidé de faire médecine. Comment ça s'est passé ?
Oui, je crois que là, c'était le premier déclic pour se dire qu'est-ce que je peux faire dans ma vie. Et je pense que c'était un parcours où je vois mon père que j'admire, mais que je ne comprends pas pourquoi il peut être injuste. Je n'avais pas encore toutes les facultés pour comprendre qu'il avait des limites. Un père, c'est quelqu'un qui peut tout, qui fait tout. Et sa réponse qui me montre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire.
Vous évoquez l'incident où il ne peut pas guérir un enfant.
Voilà, exactement. On l'appelle pour un enfant malade, il prie pour cet enfant. Et puis, après avoir prié, il plie bagage et puis il veut partir. Et moi, je dis non, papa, c'est pas vrai. Moi, quand je suis malade, vous priez, mais vous me donnez aussi des médicaments pour cet enfant qui est dans cette mauvaise condition. Mais vous faites seulement la prière, mais vous ne donnez rien. Et sa réponse était, je ne suis pas médecin. Et j'ai eu le sentiment, à ce moment-là, il y a un déclic où j'ai dit, moi, je vais être médecin pour faire ce que vous ne faites pas.
Alors, vous êtes donc venu à l'ONU ce soir pour la projection du film « L'homme qui répare les femmes ». Ce film a fait l'objet de censure. Selon vous, pourquoi ?
Je ne peux pas vraiment répondre, puisque moi, j'ai l'impression que c'est un film qui donne et qui montre la force de la femme congolaise, sa capacité de se prendre en charge, sa résilience. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, je crois que c'est un film qui est adressé à toutes les femmes qui ont été violées, qui ont subi l'oppression, de dire « celui qui voulait me détruire n'a pas de force ». Les femmes ont une force intérieure plus forte que la force de ceux qui veulent les détruire. Je crois que sanctionner un film comme ça, pour moi, ça n'a pas de sens.
Vous avez reçu le prix Sakharov. Aujourd'hui, vous faites l'objet de plusieurs campagnes, année après année, pour être nommé pour le prix Nobel de la paix. Mais en fait, votre travail n'a pas toujours bien été reçu et votre vie a souvent été menacée. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces moments difficiles et si vous vous sentez aujourd'hui encore menacé ?
Effectivement, j'ai eu des moments très difficiles. Je me rappelle quand l'hôpital de Lemera a été détruit et que mes malades que je promettais protection, que je soignais, ont été assassinés. C'était très dur dans ma vie et je crois que ça m'a pris 2 ans avant de sentir que je peux être encore utile. Et ça, je crois que c'était très dur. Peut-être parfois les gens ne s'imaginent pas à quel point vous avez la responsabilité des malades. Quelqu'un vient, il les tue dans leur lit. Je crois que c'était un coup très dur dans ma vie. Quand j'ai quitté les mers, j'évacuais un malade qui devrait aller en Suède pour des soins que nous ne pouvions pas donner. Notre véhicule avait essuyé des balles et nous tous dans le véhicule, on pensait que peut-être tous on a été touchés. Mais à la fin, il y a eu plus de peur que de mal. On a pu s'en sortir et je crois que ça, c'était une évidence. J'ai été victime aussi des attaques dans mon bureau où je faisais des consultations privées, dans le cabinet privé à Bukavu. En fait, les balles qui étaient tirées dans mon bureau, si j'étais présent, la façon d'attaquer les bureaux, j'étais atteint. Et puis, l'assassinat commis dans ma maison de mon ami regretté Jeff. Donc, vous voyez, c'est énorme. Mais de l'autre côté aussi, je me dis qu'est-ce que moi j'ai fait personnellement, qu'est-ce que j'ai fait pour échapper. Je ne fais pas grand-chose. Aujourd'hui, j'ai la protection de la Monisco, que nous apprécions beaucoup à l'hôpital, puisqu'il y a eu également certaines personnes de mon staff qui ont été enlevées, torturées, violées, etc. Et donc aujourd'hui, le fait que nous ayons cette protection, nous nous sentons un tout petit peu rassurés dans le travail que nous faisons, mais ce n'est pas toujours facile.
Pinzoli etangi.
Est-ce que vous croyez qu'il y a eu des fortes avancées dans la lutte contre cette violence sexuelle, tant sur le plan donc de la perception, mais aussi des racines de cette violence?
Je crois qu'on ne peut faire des avancées que si d'abord, un, on reconnaît qu'il y a un problème. Et je crois que lorsqu'on reste dans la culture du déni et dire « bon ben, c'est combien, ce n'est pas vrai, est-ce que vraiment ces femmes ?» Je crois que là, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est la seule façon de laisser les femmes dans leur souffrance en disant « expliquez-vous par rapport à ce qui vous est arrivé, est-ce que ce que vous dites est vrai ?» Et je pense que là, il y a encore des efforts à faire. Je trouve que ce n'est pas suffisant. Moi, j'étais personnellement choqué qu'au XXIe siècle, qu'il n'y ait pas une réaction en chaîne lorsqu'on montre des femmes avec des prix. Moi, je me dis, mais si on peut voir des images comme ça et ne pas se dire qu'est-ce que moi j'ai fait pour arrêter ça, c'est extrêmement dangereux pour notre race humaine. C'est-à-dire, quelle est la valeur que nous donnons à notre humanité si des gens peuvent se permettre de vendre d'autres personnes pour un usage sexuel, d'esclaves sexuels. Moi, je pense que c'est terrible. Quand vous voyez comment ceux qui font ces actes, ils utilisent la même stratégie que celle qu'on a connue au Congo. C'est des jeunes gens à qui on promet tout et finalement, en leur donnant des femmes avec lesquelles ces gamins jouent, détruisent, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je trouve que la réaction n'est pas encore ce que nous devrions avoir par rapport à la protection de nous-mêmes. Je crois qu'il ne faut jamais considérer cette question comme une question des femmes, une question des féministes, etc. C'est une question de notre propre humanité. Et je crois qu'on n'est pas encore suffisamment engagé pour dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses que notre société doit dire non et mettre une ligne rouge pour dire ça, si ça s'est fait, c'est une mobilisation de tout le monde pour dire ça n'est pas possible.
Vous avez quand même évoqué dans le film et dans vos discours les intérêts économiques, l'impunité. On voit aujourd'hui la RDC se doter d'une représentante contre les violences sexuelles au nom du président. Et on voit divers groupes d'armées participer à la reddition, rendre leurs armes. Constatez-vous des avancées concrètes, réelles? Vous pensez qu'on va de l'avant?
Je crois qu'il y a des avancées. Il faut dire qu'il y a 15 ans, ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. Mais comme j'avais dit, j'ai dit qu'il y a des efforts à faire. Vous savez, lorsqu'une femme a été violée, et celui qui a commis les viols, il est toujours là, même si vous dites que vous avez condamné Jean Bosco Ntaganda à la haie, pour la femme, elle ne connaît pas celui qui est à la haie, elle connaît le monsieur qui est en face et qui voit tous les matins. Et malheureusement, cette personne n'a jamais répondu de ses actes. Et c'est là où j'ai dit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il ne faut pas crier victoire puisqu'on a arrêté des généraux. Il faut crier victoire lorsque nous pouvons être capables d'éduquer les gens à comprendre que la femme fait partie de notre humanité et qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire puisque ce sont des femmes. Et là, la justice doit passer. Si la justice n'est passe pas, les gens se comportent de la même façon. Donc il y a ce qui a été fait, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas une victoire, il y a des évolutions à faire.
Et c'est avec le docteur Denis Mukwege que se referme ce magazine Escale. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à la semaine prochaine.